Georges Gizier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre, L'astrologie archétypale, en sous-titre ou Quand le divin rencontre l'inconscient collectif en chacun, et c'est publié chez Réel Édition. Outre le fait d'être écrivain, votre métier, c'est plus thérapeute, je pense.
Moi, je dirais plutôt psychanalyste symbolique, c'est-à-dire psychanalyste dans une obédience jungienne. Alors, ce qui m'intéressait dans cette approche, c'est de faire un lien entre l'astrologie et la psychanalyse. Parce que souvent, on prend l'astrologie un peu magique, un peu comme un destin qui pourrait nous écraser, qu'il faudrait essayer de décrypter. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même la vraie question, mais dans un thème, où est le divin? Où est-ce qu'on le pose? Et je pars de l'hypothèse que le divin, c'est au centre du cercle.
J'allais vous demander en préambule, quelle a été la différence ou la spécificité, finalement, de l'astrologie archétypale, telle que vous l'entendez, par rapport à l'astrologie classique, finalement?
Remettre le soi au centre. C'est-à-dire que la véritable origine, la véritable naissance, c'est le centre. À l'intérieur de nous-mêmes, c'est toujours un centre qui se subvertit par lui-même. Et puis, pour moi, le thème de naissance, c'est pas tellement le thème de la personne. C'est les archétypes de l'univers, la cartographie des archétypes de l'univers que le bébé ou le divin, si je peux dire, rencontre au moment de la naissance. Donc l'enjeu pour moi de cette astrologie, c'est de regarder la cartographie de l'univers rencontré. Moi j'appelle ça aussi la cartographie de l'inconscient rencontré. C'est l'inconscient collectif, surtout que en astrologie, on va dire, il y a des planètes qu'on considère comme plus personnelles et il y a des planètes qu'on considère comme plus collectives. Mais le thème, c'est ça. C'est la rencontre, c'est la carte de la rencontre entre le divin qui est en train de naître et son propre inaccompli, si je peux dire, à travers les archétypes qu'il y a dans l'inconscient collectif.
Oui, parce que vous dites donc une naissance, c'est une personne donc, qui rencontre un inconscient collectif, voire transgénérationnel. Et vous dites, c'est un acte où se transmet l'ancien monde, souvent blessé, à un monde qui cherche à naître et à se différencier de l'ancien.
Oui, parce que si on voit l'astrologie comme ça, c'est quoi un thème? Au fond, le thème, c'est ce qui est inaccompli. Et le danger, ça serait d'en faire un destin. C'est-à-dire que notre naissance, puisque nous aurions tel thème, ferait que notre vie serait en quelque sorte téléguidée ou préprogrammée. Voilà.
Le destin?
Oui, moi je ne parle pas en termes de destin, je parle en termes de fixation. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est est-ce qu'on reste centré au centre du cercle? Ou est-ce qu'on est pris par les blessures? Est-ce qu'on est pris par le tragique? Et du coup, on se fixe. Et on le voit bien dans nos vies. On peut les voir aussi comme des destins, parce que souvent on répète, on répète, on répète, tant qu'on n'est pas revenu au centre de nous-mêmes. Donc tout l'enjeu pour moi de l'astrologie archétypale, c'est de repérer qu'est-ce qui pourrait nous fixer, faire de nous des objets d'un destin, et puis peu à peu, au fil de l'histoire, se défixer de ces positions rencontrées à la naissance pour revenir vers le centre, retrouver une souplesse de vie.
Alors, est-ce que c'est pas quelque part aussi l'idée de se mettre au diapason de sa mission intérieure, mais au regard de son hérédité, et non pas la mission extérieure, par exemple l'accomplissement d'une quête professionnelle, voilà. Autrement dit, le désir du soi à travers la naissance, c'est ça, hein?
Je pense que le soi, il vient rencontrer une histoire inachevée.
Alors, l'histoire inachevée, c'est un peu l'histoire personnelle, en quelque sorte, celle qui est liée à notre naissance, donc notre entourage proche.
Oui, proche et moins proche. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des planètes qui sont plus personnelles, il y a des configurations dans le thème qui sont plus tragiques. Et quand c'est tragique, c'est évidemment plus personnel, plus près de nous, plus transgénérationnel, on peut repérer ça dans notre histoire. Mais aussi, il y a des configurations plus collectives. Par exemple, on évoque souvent dans l'astrologie un temps comme mai 68 ou autre, c'était des planètes très collectives qui ont posé dans l'univers des échanges énergétiques. Et les êtres qui ont rencontré ça à ce moment-là étaient portés par ça. L'enjeu, c'est d'essayer de faire une lecture symbolique ou archétypale de ces configurations de naissance, encore une fois, pour revenir au centre. Parce que dans l'astrologie archétypale, l'enjeu, c'est de repérer les planètes comme étant des énergies. Par exemple, la Lune, on peut associer la Lune à la féminité, on peut associer le soleil à l'ego, au besoin de rayonner, on peut associer Saturne, moi je l'associe à la fonction paternelle, donc la question de la limite, d'être contenu, la question de la loi. On peut aussi envisager Neptune comme posant la question de la spiritualité. Mais tout ça, pour moi, ce sont des archétypes et voir comment ils étaient organisés au moment de la naissance.
Mais alors qu'est-ce qui différencie deux personnes qui, par exemple, qui vont naître au même endroit, au même moment, à part évidemment leur passif?
Oui, j'aime pas trop le mot passif, hein, parce que en fait, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de. C'est simplement, c'est des rencontres. C'est une rencontre avec un inconscient. Eh bien, il peut y avoir des personnes qui risquent d'avoir des sensibilités et proches et en même temps différentes, et elles vont réagir de façon différente. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de choses difficiles. C'est simplement un accouchement. Alors, il se fait par l'intérieur, par ce que j'appelais de revenir vers le centre. Et il se fait aussi par une rencontre sur l'inachevé du monde, sur ce qui était fixé au moment où nous sommes entrés dans ce destin, si je peux dire, arrêté du monde, et à nous de le remettre en marche. Parce qu'un thème de naissance, c'est une image fixée. Et l'enjeu, c'est de repermettre la circulation des planètes, alors que si on est fixé, en quelque sorte, on les bloquerait.
C'est complexe parce que ça veut dire un peu retrouver un état finalement au-delà de l'espace et du temps quelque part.
Quand on aborde nos histoires personnelles, on est à un premier niveau. Oui. Et ensuite, lorsqu'on arrive à faire une lecture symbolique ou archétypale, c'est-à-dire de voir quels sont les archétypes au fond qui pilotent nos vies et nos événements, eh bien on rentre dans une autre dimension qui effectivement est moins directe avec la réalité et surtout on rentre dans une autre dimension de temps. Parce que lorsque je travaille mes archétypes blessés ou tragiques et que j'arrive à en faire une nouvelle organisation psychique plus légère ou plus dans la lumière, on va dire comme ça, je remonte toutes les blessures tragiques de l'histoire. Et je crois que l'enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à voir combien l'histoire nous a fermés, nous a fixés, et que peu à peu, en remontant comme ça à travers les archétypes qui s'y jouent, on participe d'un jeu collectif, parce qu'il s'agit de toute la Terre qui est confrontée à ces archétypes, et on remonte en quelque sorte vers quelque chose de plus léger, quelque chose de plus centré, quelque chose qui est plus dans la lumière et dans l'ouverture.
On peut opposer à ça donc l'être par rapport à l'ego, peut-être, non ? Enfin, l'ego étant justement tout ce qui est lié à l'histoire personnelle ?
Oui, l'ego, c'est une défense dont on a un peu besoin, à condition de repérer que c'est une défense. Et l'enjeu, effectivement, c'est d'arriver à se différencier de toutes ces fixations qui ont été inabouties, qui ont été transmises par nos parents ou par la culture rencontrée, pour arriver à quelque chose de plus léger et quelque chose qui est plus dans l'être. C'est-à-dire, pour moi, j'associe l'être ici au centre du cercle, à l'ouverture, à la non-fixation, à une respiration, sans doute à, évidemment, s'ouvrir sur beaucoup plus grand que nous.
Il y a une image qui me vient comme ça, l'aïkido par exemple, c'est un art martial, qui signifie la voie de l'harmonisation des énergies. On est un peu dans cette idée-là.
Oui, c'est-à-dire c'est remettre en circulation. Quand vous avez deux planètes, mettons, qui ont un carré entre elles, c'est-à-dire 90 degrés entre elles, on présuppose en astro que c'est un conflit. Donc s'il y a un conflit, il y a forcément quelque chose de l'histoire qui est à régler, quelque chose qui s'est fixé. Et l'enjeu, c'est que ces deux planètes arrivent, ce sont deux archétypes qui se battent, si je peux dire, dans l'inconscient. Et donc l'idée, c'est qu'elles arrivent à se parler et qu'elles puissent reprendre leur chemin de circulation énergétique et se défixer de ce conflit qui est un conflit historique de transgénérationnel ou collectif.
On parlait de se défixer, c'est aussi se différencier. Mais alors pourquoi est-ce que c'est important, pour bien comprendre, de se différencier finalement ?
Je crois que la différenciation, pour moi, c'est le désir du divin. C'est-à-dire que nous sommes tous en train d'accoucher. Et accoucher, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire passer par une matrice dont il faut se différencier. Et en astrologie, c'est ça qu'on essaie de repérer, c'est-à-dire quelle est la menace matricielle, quelle est la menace qui pourrait nous fixer et s'appuyer à l'intérieur de nous sur le moteur, je dirais, spirituel, qui est vraiment la différenciation, se défaire d'eux. Il ne s'agit pas de mépriser ce qui est le passé, mais progressivement prendre ce qu'il nous a donné pour participer à une différenciation. Moi, j'associe beaucoup, pour moi, dans le chemin d'accompagnant, la spiritualité au désir de différenciation.
Mmh. On va parler de quelques exemples de différenciation, mais avant peut-être quelques exemples d'indifférenciation. Moi j'ai noté comme ça en lisant votre livre, par exemple la fusion, l'enfant roi, l'Oedipe, la confusion entre la séduction et l'amour.
Oui, moi ce qui m'intéresse c'est d'associer astrologie et psychanalyse. Et on peut voir qu'il y a des positions dans le thème, on peut dire, qui sont des positions fusionnelles. Par exemple, si la Lune est très proche du Soleil, pour faire simple, ça évoque une fusion, soit avec la grande menace d'y disparaître, soit avec la grande difficulté à s'en différencier. C'est une fixation et c'est collectif. Mais en même temps, on peut voir ça comme une circulation, c'est-à-dire que nous avons une matrice dont il faut se différencier. Mais l'avantage de l'astrologie, c'est que ça nous met dans une géométrie circulaire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes au plus loin, c'est-à-dire à 180 degrés du cercle, ce qu'on appelle une opposition, on ne peut pas prendre la tangente, on ne peut pas s'en aller. D'ailleurs, on le voit la même chose en écologie. Si je m'en vais le point possible de mes parents, je vais en Australie. Mais une fois que je suis en Australie, si je continue, je reviens. Donc l'enjeu, c'est de travailler ça, la différenciation extérieure. Je mets des kilomètres, je mets la distance affective, mais à un moment, je vais revenir. Mais je ne vais pas revenir pour me faire reprendre. Par la différenciation des 180 premiers degrés, j'ai acquis la capacité à me différencier. Donc après, quand je reviens vers l'autre, quand je reviens vers ma mère, ou quand je reviens dans ma matrice, on va dire comme ça, ou quand je reviens dans ma ville natale, j'ai acquis le sens intérieur de la différenciation. Donc je peux être face à l'autre et différencié. Et je crois que c'est ça le désir spirituel, c'est-à-dire de participer à une communauté et en même temps que chacun soit différencié.
Alors, quelques exemples peut-être de différenciation. Vous parlez de réaliser une vie spirituelle, enfin, développer sa spiritualité. J'ai noté aussi vivre sa féminité pour certaines femmes, ou alors aimer le masculin pour certains hommes.
Oui, je pourrais dire que l'avenir, pour moi, c'est la féminité. Et pour la femme et pour l'homme, le futur, c'est la féminité. Sauf que, souvent, à la naissance, la féminité est écrasée par une matrice, par des habitudes, par des répétitions, même qui peuvent être charmantes, mais qui sont des répétitions d'appartenance. Et il s'agit, je crois, en chacun d'entre nous, de différencier l'amour qui peut nous entraîner dans l'appartenance à quelque chose qui soit une féminité de différenciation. Et c'est pas du tout la même chose. Et je crois qu'une des grandes menaces collectives dans le monde, c'est de confondre amour, appartenance et féminité, différenciation. Et il y a tout un travail là de précision.
La possession.
Ah ben la possession, c'est un grand danger. Parce que déjà, c'est fusionnel, il y a une soumission dans la possession. Mais le grand danger, c'est la réaction. Quand quelqu'un est menacé d'être soumis ou d'être en appartenance, forcément il va réagir. Et s'il va réagir, ça va être un masculin maltraitant, ça va être un règlement de compte et en partie des conflits qui viennent de là. Et je crois que pour chacun d'entre nous, nous avons vraiment à réfléchir qu'est-ce que c'est que l'ouverture. Et ne pas confondre amour et possession, parce que sinon ça fait amour et fermeture. L'enjeu, c'est d'être dans l'amour. Donc dans l'ouverture, donc dans la non-possession. Et c'est tout un chemin, pour moi, spirituel ou psychologique. Et souvent, nos matrices, ou nos familles, ou tout collectif, ou toute institution, même si ça prône l'amour, ça cherche à garder.
Amour conditionnel, finalement.
Voilà. Et alors, pourquoi pas, ça peut être charmant, mais attention, il va y avoir forcément une réaction, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un moteur de différenciation, un moteur masculin.
Qu'est-ce qu'une guérison au sens où vous l'entendez dans la thérapie symbolique? Vous dites « l'inconscient fait disparaître notamment des valeurs de qualité relationnelle ou de la présence ».
L'inconscient tragique, si je peux dire comme ça, écrase, et notamment écrase la féminité, c'est-à-dire ça écrase l'autre, et ça écrase la relation. Et pour moi, la spiritualité ou le divin se révèle toujours dans la qualité relationnelle. La vraie présence, c'est pas en moi. La vraie présence, elle me traverse et surtout, elle essaye de traverser la relation et d'être entre. Mais effectivement, toutes les matrices essayent d'écraser ça, de garder l'amour pour elles, de croire que c'est elles qui vont nourrir, qu'on n'est pas fini. Il y a une grande peur, je crois, dans l'inconscient, de s'ouvrir, vraiment sans condition. Je dirais simplement être l'ouverture.
Je suis désolé de revenir un peu en arrière, mais tout à l'heure on parlait des archétypes finalement, parce que vous dites c'est pas les personnes qui sont en cause, ça c'est important, parce que on incrimine souvent si on se met à faire, je sais pas, une psychothérapie, une psychanalyse, on va incriminer en tout cas au début peut-être un parent ou un ancêtre ou voilà. Mais vous dites que c'est pas les personnes qui sont en cause, ce sont seulement les archétypes qui dominent ces personnes. Et vous dites plus de faute, mais un accouchement personnel et collectif. Parfois douloureux pour sortir des histoires.
C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail, c'est pas de dire du mal de papa et de maman. Ouais. Même s'ils ont été parfois de mauvais parents, il faut dénoncer si c'est le cas.
Du coup, mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas de faute, en fait.
Non, il n'y a pas de faute. Voilà. Alors, ça dépend sur quelle fréquence on est. Sur la fréquence humaine, il y a des fautes et il faut des policiers, il faut des juges, il faut éventuellement des prisons. Évidemment, sur la fréquence humaine. Mais si on essaye d'aller ailleurs, il n'y a pas de faute. Il y a simplement une transmission d'archétypes tragique en difficulté, le mal dominant, par exemple, c'est quelque chose qui traîne dans l'inconscient, et ça peut faire des ravages. Mais si nos parents ont été maltraitants, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu, à l'intérieur d'eux-mêmes, arriver à guérir de ces archétypes tragiques qui les dominaient eux-mêmes, parce que peut-être les grands-parents eux-mêmes n'ont pas pu faire le ménage. Je veux dire, c'est des blessures. Dès qu'on parle d'archétypes, on parle de l'histoire collective. Donc c'est ça qui domine les êtres humains. Alors, évidemment, il faut une loi pour les contenir, mais au fond des choses, c'est simplement c'est une maladie qui se transmet, et la maladie, c'est que je peux être, à tel ou tel moment dans ma vie, dominé par des archétypes tragiques, c'est-à-dire des histoires collectives qui ne sont pas réglées.
Mais alors, le jour où on entreprend finalement cette démarche de se différencier, donc, du coup, si on arrive à une forme de guérison, ça guérit du coup toute la famille, ou pas ?
Ah, c'est plus que la famille. Ah. Enfin, le but, c'est pas de guérir la famille.
Non, bien sûr, mais...
Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent en disant, bon, j'ai une fille, je vais transmettre des choses. Non, non.
Ça interagit, je veux dire, avec tout le reste de...
Oui, ça interagit avec les archétypes, c'est-à-dire que ça interagit avec le collectif. Si je soigne en moi, et je crois que vraiment c'est ce que nous devons faire, parce qu'il y a des choses horribles dans le monde, si on prend les prisons syriennes, par exemple, bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Je peux pas bien faire grand-chose pour les prisons syriennes, par contre, je peux, comme dans un rêve en quelque sorte, voir les archétypes qui s'y jouent, la maltraitance évidente, voilà, et voir en moi comment il pourrait encore se jouer, comment je pourrais être encore dominé quelque part ces archétypes extrêmement maltraitants. Et plus je travaille ça, plus à mon avis, je m'élève ou je guéris, ou j'ose pas employer ce mot-là, mais je participe d'une guérison collective. Et plus je travaille ça, plus je remonte le temps, en quelque sorte. Oui, nous devons faire ça. Guérir en nous les archétypes que nous voyons encore en action dans le monde.
Vous dites, c'est nous qui devons entreprendre cette action, mais c'est pas évident pour tous.
Ah ben, je pense que c'est ça le changement culturel. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une chance extraordinaire. Moi, je commence à être d'un certain âge. Moi, mes parents, ils n'avaient aucun outil. Aujourd'hui, on a quand même des outils. On a la conscience qu'il y a une réalité, mais qu'il ne faut pas s'arrêter au premier degré de la réalité, que dans la réalité, il y a une autre réalité, qui est une réalité archétypale ou symbolique. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience qu'il s'agit de changer de fréquence et d'aller travailler sur les archétypes. On va dire c'est la faute à personne, mais c'est collectif et il faut qu'on travaille ça. Il faut qu'on change de fréquence.
Faire une lecture symbolique, finalement, des événements. Pour soi et pour le monde.
Oui, toujours s'atteler à tout ce qui nous arrive, n'est pas un hasard, on va dire comme ça. Il y a un sens symbolique, et la guérison, la vraie, c'est de rentrer dans ce sens symbolique pour libérer les tensions qui étaient des tensions, d'un autre âge, ou anciennes, entre ces archétypes qu'il s'agit donc de libérer. Oui, oui.
Oui, Castaneda, lui, parle d'effacer son histoire personnelle, c'est un peu cette idée, de passer ce cap.
Oui, certainement. Je ne sais pas s'il faut effacer, moi je dirais il faut la voir, mais il faut se défixer.
C'est ça.
Il me semble qu'il faut la voir, parce qu'effectivement il y a des maltraitances, il y a tout un... Se défixer et ensuite irriguer d'autres canaux que les canaux répétitifs de l'histoire. Je pense que, ce que je disais tout à l'heure, l'ouverture, la vraie ouverture, n'a plus d'histoire. Si je viens dans l'ouverture avec mes bagages historiques, je passe pas la porte. La vraie ouverture, c'est j'ai plus d'histoire. Je ne suis qu'ouverture, c'est-à-dire qu'au fond...
Présent.
Oui, présent ou fils ou fille du divin. C'est-à-dire que je pense que le divin est ouverture, différenciation. Je ne connais pas le futur, mais le passé ne m'encombre plus.
Au-delà de l'espace-temps, dans l'instant.
C'est ça.
Okay. Et vous dites aussi que Dieu, c'est joli ça, est la joie des planètes libérées de toute fixation de l'histoire. Donc on vient d'en parler. Alors, et s'incarner, pour vous, c'est, je cite parce qu'il y a des phrases comme ça qui sont intéressantes, c'est accepter la réalité rencontrée, inaccomplie ou accomplie, et la différenciation se fera avec le temps, vous dites. Et c'est comme un être spirituel qui est décédé depuis peu, Arnaud Desjardins, qui disait aussi dire oui à ce qui est.
C'est ça. J'aime bien cette idée de communauté joyeuse des planètes. Parce que souvent, on voit un thème en astro comme ça, on dit, oh là là, j'ai pas de chance, j'ai un trait rouge, j'ai un trait bleu. Vous voyez, on est un peu habitué au malheur. Bon, alors effectivement, mais ça, c'est le malheur du passé. Après, il s'agit de défixer et de rendre leur liberté aux planètes, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, rendre la liberté joyeuse aux différents archétypes et sortir des configurations tragiques pour s'appuyer sur, par exemple, sur la lune, la féminité joyeuse, la fonction paternelle joyeuse qui contiennent, ou la spiritualité, comme je disais, avec Neptune joyeuse, ou Uranus qui pousse à la différenciation, un peu à la révolution joyeuse, ou Pluton qui est toujours la planète un peu de l'intelligence, qui remet tout en cause. Oui, mais au service de la joie, du centre, un centre et des planètes qui tournent autour joyeusement.
C'est un peu se récréer un peu, il y a un peu ce rôle de créateur.
Oui, recréer, j'entendais récréer, hein, oui. Récréation. Oui, c'est ça, oui, récréation, c'est un très beau jeu de mots, je n'ai jamais fait avant vous, là. Oui, c'est reparticiper de façon créative et joyeuse à une récréation du monde.